espagnol, ça fait juif. C'est vrai, je suis séfaradi que je vous dis ça, je m'appelle Ashkenazi. mais chanter un psaume en français, c'est, bon, je ne vous donnerai pas d'échantillon, mais c'est bizarre. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Je vais vous citer une analyse de Bergson, dont le fond de l'analyse vient de lui. C'est que l'occidental est devenu très rapidement, dans l'histoire des civilisations, capable de performance en sciences et techniques. Et puis, corollairement, est devenu aveugle au niveau de la vie spirituelle. Et les langues de l'Occident sont très précises. Quand elles désignent les réalia, elles deviennent très floues dès qu'il s'agit des idéalia. Vous comprenez le sens des mots. Sauf chez les poètes. Les poètes, eux, sont à l'aise dans le monde. Je parle des poètes occidentaux, ça existe. Mais, d'une façon générale, l'occidental est candidat au bac science, je ne sais pas comment, pour raccourcir. Okay. Ça ne veut pas dire qu'un occidental n'est pas capable de vie spirituelle. Mais pour ça, il faut qu'il se fasse le disciple d'un oriental. Et il n'y a pas d'exception. C'est ce que les occidentaux appellent s'orienter, je suppose. Et effectivement, vous voyez que la religion de l'Occident s'est devenue, depuis 2000 ans, ça a pris du temps. Et c'est pas, ça n'a jamais été achevé. L'Occident n'a jamais été complètement christianisé. Mais c'est devenu le christianisme, et on a cherché un modèle en Orient. Par hasard, chez les Hébreux. Bon, peu importe, c'est un hasard. C'est pas un hasard, mais enfin, c'est une coïncidence. Et chaque fois que un homme de culture occidentale, les mots ayant un sens fort, cherche une vie spirituelle, eh bien, il va la chercher en Orient. Il va chercher chez les mystiques musulmans, chez les bouddhistes, chez les... Vous avez remarqué ça? Et ça ne veut pas dire que la tradition occidentale n'a pas existé, elle a existé. Et il est probable, je dis ça comme ça en passant, que si Rashi a choisi, et admis, et a décidé de formuler son commentaire en vieux français, c'est que le vieux français participe encore d'une langue traditionnelle. Je referme la parenthèse. En tout cas, il y a eu des mystiques occidentaux, mais ça n'existe plus. C'est pas que ça n'existe plus, je veux dire, j'ai mal parlé. Je veux dire, ça existe, des mystiques occidentaux, mais ils se servent, ils effectuent leur mysticisme dans des catégories orientales, et c'est pas fait pour eux. Je sais pas si vous avez lu René Guénon. Eh bien, René Guénon le dit en clair. Lui-même s'est fait oriental, je crois que s'est fait musulman, d'ailleurs. Probablement d'origine juive. Probablement, parce que c'est un nom très, très juif. Guénon, ça vous dit quelque chose. Mais je sais pas si vraiment il était juif. En tout cas, de lointaine. Et vous avez, dans le temps contemporain, des gens comme Massignon ou Garodi, eh bien, piégeois, ils sont devenus musulmans, par le soufisme. Top, je reviens au problème. L'oriental, lui, c'est l'inverse. Très rapidement, on s'aperçoit que, et c'est un homme qui est capable de performance au niveau spirituel, mais qui devient à la longue pratiquement aveugle au niveau des sens et des techniques, sauf s'il se fait l'élève de la méthode occidentale. Alors là, il peut être prix Nobel et dépasser son maître. Okay. Eh bien, Israël, c'est autre chose. Et alors, je termine, les langues orientales sont très riches pour les nuances spirituelles et très pauvres pour désigner les réalités concrètes. Eh bien, Israël, c'est autre chose, c'est ni Orient ni l'Occident, parce que c'est les deux à la fois, mais alors, ça veut dire que c'est autre chose. Et le monde entier, d'ailleurs, je crois, l'a toujours su, a toujours été un peu pris de panique devant cette manière d'être homme, qui est terrifiante, parce qu'un occidental, eh bien, à la limite, il acceptera que l'autre soit oriental. Un oriental, à la limite, il acceptera que l'autre soit occidental. Mais voilà qu'Israël, c'est capable d'être les deux. Et la performance spirituelle, la performance des sens et des techniques, pour ne parler que de ça. Okay. Et ça, c'est un problème qui mérite d'être approfondi, ça explique beaucoup de choses à travers l'histoire et dans le temps contemporain. C'est le phénomène sorti d'Égypte. Alors, quand on le lit dans la Bible, on s'aperçoit d'un phénomène de panique décrit dans les récits bibliques qui subitement prennent le monde civilisé de ce temps-là, le monde méditerranéen. On raconte ça dans Shiratayam, dans le chant de la mer Rouge, et Balak et Bilam. Une horde d'esclaves est sortie des camps de concentration d'Égypte et subitement le monde entier est pris de panique. Vous remarquez l'analogie avec ce qui se passe actuellement. Okay. Je reviens donc au sujet pour dire ceci, c'est que ne jamais perdre de vue qu'en hébreu, ce n'est pas des synonymes. Les termes qui désignent les effectuations de comportements spirituels sont des catégories bien claires et bien précises. C'est traduit en français que ça semble vague et qu'il y a un amalgame. Je referme la parenthèse que j'ai accrochée à la personne, ça vient de lui d'ailleurs. Donc, eh bien, dans l'univers de Avodat HaKodesh, les rites qui se font par la parole, et je vous ai signalé un des problèmes de Halakha très important, doit-on prononcer ou pas? Mais j'ai pas fini d'expliquer. La Halakha est qu'on doit prononcer, sinon c'est pas valable, surtout pour l'aveu. Vous voyez, les psychologues savent que lorsqu'un homme est capable d'avouer que ça peut sortir de sa bouche sans lapsus, alors c'est qu'il commence à être guéri. Vous voyez le problème? Pour quelle raison? Eh bien, essentiellement, non, je crois que je l'ai dit, c'est que il faut pouvoir s'exprimer dans le sens fort, dire laquelle des hypothèses de la vie intérieure on a choisi. C'est là qu'on s'engage, c'est là-dessus qu'on est jugé. Et donc, le rite doit être au moins que je m'entende parler. Corollairement, il ne faut pas gêner l'autre qui est à côté. Vous savez, ces gens qui prient fort. Quand il faut prier à voix basse, c'est suspect. Le prophète Élie avait déjà dit ça au prophète de Baal. Pourquoi vous criez? Vous croyez qu'il est sourd? Effectivement, il y a des moments, mais c'est un autre rite. La clameur, la tzaraka, c'est un autre rite. Alors là, on crie. Mais la prière, il faut être, je ne sais pas comment dire, civilisé. Oui, c'est mignani où on gesticule et où on crie. Où on dit ça fait pieux, ça fait pas pieux, ça fait ce que ça fait. Mais ça, c'est autre chose. Est-ce que c'est clair? Je me rappelle dans les synagogues de ma jeunesse, dans le monde sfarade, si jamais on voyait un juif se balancer, il prenait la fenêtre tout de suite. À peine se balancer, il y avait des gestes nobles de balancement, mais ces gesticulations, ça indique autre chose, Ken. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des milieux où c'est ça la piété. Hein? Mais la prononciation doit être sobre. Et c'est une législation là-dessus, d'ailleurs. Donc, alors je reviens à mon problème. Parmi ces Avodah Shebalev, il y a un rite qui s'appelle la Tefila et qu'on va traduire par la prière. Voilà. Alors c'est pourquoi j'indique dans cette première analyse qu'il faut garder pour traduire Tefila le mot de prière en français dans le sens strict que ça a dans le français, je vais en faire l'étymologie, c'est un rite de la demande. Et la louange, c'est pas une prière. La sanctification, un rite de sanctification, c'est pas une prière. Un kiddush, un kaddish, une kedusha, c'est un rite de sanctification. C'est pas une prière. Vous voyez, prier, ça veut dire demander. Et c'est le sens originel du mot en français. En français, on dit je vous en prie. Je vous prie de. Vous voyez, il y a deux nuances. C'est-à-dire qu'il y a une manière de demander qui est la prière, et c'est étymologiquement, nous allons le voir en hébreu, ce qu'elle forme. À la manière dont un inférieur demande à un supérieur, et non pas dont un supérieur demande à un inférieur. Ça, c'est l'imprécation. Et c'est un comportement magique. Or, j'en arrive à ce moment de l'analyse étymologique sur la question suivante, qui est double. Comment peut-on prier? Qu'est-ce qui nous donne le droit de prier? Et à quelles conditions on a le droit de prier? Là, il faut découvrir le problème de la prière. Je l'ai défini de façon formelle. C'est le rite qui consiste pour la créature à demander au créateur un bien, une bracha, une bénédiction, que son travail ne pourrait pas lui permettre d'obtenir. Un bien, dans le sens simple en français, quelque chose qui fait du bien, des biens, tout. En hébreu, tout avec un cholem, un shuruk, avec le ou, pas tov avec le cholem, le haut, Tov, ça veut dire le bien moral, ce qui est bon. Mais tout, c'est les biens dont on profite. La bénédiction. Ça, on aura un cours exprès là-dessus, déjà la semaine prochaine. Mais et je voudrais exprimer l'étonnement devant une telle prétention. La créature se met devant le Créateur et semble lui dire « Et mon Dieu, le monde que tu m'as fait ne me convient pas, change-le. » C'est ça la prière. Vous avez deviné la khutba ? Qu'est-ce qui nous donne le droit de ça ? Les grands justes de la tradition avaient peur de prier. Parce que précisément, ils comprenaient à quel point c'est une entreprise qui risque d'être blasphématoire. Et non seulement ça, d'ailleurs la prière est une autorisation tardive qu'il a donnée à l'humanité. Dans un texte de la Gemara Brachot, il dit que les premiers qui ont prié, c'est les patriarches. Et alors, avant, on priait pas. Oui, on priait, mais c'était exceptionnel. Et en tout cas, c'est pas donné comme une sorte de droit à la prière qui va être ritualisée par la suite. Et oui, j'essaie de faire découvrir que ça va pas de soi, que la religion se définisse par le droit à prier. Premièrement, c'est énorme comme prétention. Moi, la créature, je vais demander au Créateur de changer sa volonté pour moi. De quel droit ? Alors je disais, les grands justes avaient peur de prier. On raconte du Baal Shem Tov, et je vais vous dire comment Dieu s'y prend pour les obliger à prier. On raconte du Baal Shem Tov qu'avant de prier, il y a une prière pour demander de rester vivant après avoir prié. Parce que finalement, prier, à la limite, ça veut dire, mon Dieu, je me sens mal à l'aise dans ton monde. Reprends-moi chez toi. C'est ça que ça veut dire, prier. Okay, à tous les niveaux d'effectuation de l'expérience religieuse, en quoi que ce soit. Et en tout cas, en contexte biblique hébraïque, ça ne peut apparaître que comme inouï. Je vais vous donner un autre exemple d'étonnement, tout de suite, le miracle. Mais je reviens d'abord à la prière. Ça veut dire, je reconnais que c'est toi qui as fait mon monde, en y mettant des règles du jeu, et voilà que je ne suis pas satisfait. Khutba. Et puis, comment est-ce que vous avez khutba ? Bon, khutba énorme. Introduisez khutba, c'est juif, spécifiquement. Et alors en plus, je peux me tromper, je peux me demander quelque chose que je crois être un bien pour moi et c'est pas un bien, et si jamais Dieu m'exauce, Dieu préserve. Vous avez compris ce qui se passe. Et donc il faut savoir aussi quoi demander, et à quelles conditions. Et il y a des prières blasphématoires, il y a des prières interdites. Dans toute une législation des prières interdites. Si on avait le temps, on ferait un texte là-dessus. Mais sachez qu'on n'a pas le droit, je me rappelle. Quand j'étais enfant et que j'allais à l'école, j'avais un examen. Ma mère, Zichrona Livracha, était une femme très pieuse. Je me rappelle très bien cette scène. Un jour, je lui ai demandé, fais-moi une prière que je réussisse ma composition. Elle me regarde gentiment, elle me donne un morceau de sucre. Et elle me dit, si tu as une faiblesse, prends ça. Parce que je n'imaginais pas la suite. J'ai compris, en Algérie, on disait une flaquaise. Je ne sais pas si ça vous rappelle des choses. C'est l'espagnol. Et alors, parce que par la suite, j'ai compris. Et imaginons que j'ai une composition pour devenir médecin. Mais le malade n'a pas besoin d'un médecin de prière, il a besoin d'un médecin de médecin. Alors, c'est pas. Vous avez compris, si j'ai mon examen par une prière, c'est pas un examen. Bref, c'est même pas une prière d'ailleurs. Il y a des prières internes. Ça me donne des exemples. Si par exemple, je reviens de voyage, et je vois au loin, dans mon village, il y a une maison qui brûle. Et je dis, mon Dieu, faites que c'est pas la mienne. Prière interdite. Parce que si c'est la tienne, c'est la tienne. Tu as pris le bon Dieu pour un magicien ou pour un pompier? Oui, il y a des quantités de prières de ce genre. On croit que c'est ça la piété. Et puis on ne se rend pas compte, ce sont des déviances qui viennent de la mentalité magique. Alors voilà, la formule que je vous proposerai, c'est quel est l'objet légitime de la prière? Eh bien, la réponse, et vous comprenez pourquoi il y a une législation. On n'a pas le droit de prier n'importe comment. Et d'abord, qu'est-ce qui donne le droit de prier? Ces deux questions vont ensemble. Eh bien, la réponse va nous être donnée par l'étymologie du mot prier. Le mot prier, en français, vient du latin précari ou précaré, qui a donné deux adjectifs, deux substantifs. D'abord, la prière et l'imprécation. Vous voyez, le comportement religieux, c'est la prière. Le comportement magique, c'est l'imprécation. Et qui nous donne un adjectif très clair. précaire. On a le droit de demander que la chose précaire. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous, dans notre législation de la prière? Ce qu'aucune avoda, ce qu'aucun travail de l'homme ne peut me faire obtenir, mais que je juge indispensable en existence, c'est ça, une bracha, et alors elle est précaire et indispensable, je ne peux la demander qu'au Créateur. Vous voyez que le Talmud va étudier de façon très précise cette catégorie. Qu'est-ce qui donne le droit d'oser demander et qu'est-ce qu'on a le droit de demander? Voilà, vous avez appris toute une série de catégories concernant ce concept de la prière. Je résume. Premièrement, ça veut dire demander. Et demander dans le comportement religieux. La créature demandant au Créateur. Alors, dans le comportement magique, l'homme commande à la divinité. C'est l'imprécation. Je vais vous donner une des sources que nous avons dans la Kabbalah. Vous savez que à travers le latin, ça vient déjà chez les Grecs, mais vous allez voir que ça vient de l'araméen. Le mot magique par excellence, c'est abracadabra. Nahoul, eh bien, c'est de l'araméen. Abracadabra. Que ça se passe comme je dis. Bien, c'est devenu abracadabran. Tout simplement, quoi. Et en particulier, à la rue Broca, c'est Kadhafi Kadabra. vous savez où se trouve le centre Rachi? J'ai pas dit que c'était à Broca d'Abraham, mais... Donc, je reviens au sujet. Vous voyez, un comportement différent. Si je demande, comme un supérieur demande à un inférieur, un inférieur, c'est le comportement magique. J'ai séduit le démon... J'ai séduit le Dieu par ma stratégie magique et je lui commande. Ça, c'est le comportement magique. Et faites bien attention, ces comportements risquent de façon perpétuelle d'envahir la conscience religieuse. Ça s'appelle par un mot apparemment neutre la superstition, mais derrière, il y a des comportements de type magique. Je ne voudrais pas vous citer les phénomènes contemporains dans le monde religieux juif, mais vous les connaissez. Je suppose que vous êtes invité à des soirées très pieuses et qui en réalité ont un arrière-fond de choses bizarres. Okay? On vous vend de l'eau salée. Okay? Et alors, vous ne gagnerez plus d'argent en vendant des cacahuètes salées. Vous voyez à quoi je fais allusion, non? La liturgie salée. Okay? Non, je reviens. Ça y est, elle a compris. Le petit train est arrivé. Bien. Et alors donc, il s'agit de la chose précaire. C'est ça l'objet de prière. Et on va se demander tout de suite, on va le faire dans l'étude d'un texte du Talmud, quelle doit être l'attitude du priant pour que ce soit authentique. Voilà, je ne sais pas quelle heure il est, mais je vais vous dire tout de suite. Eh bien, il est midi à peu près, on a à peu près une demi-heure. Prenez 5 minutes, comme ça il nous reste un quart d'heure. 5 minutes pas plus et on revient lire le premier texte. Voilà, vous distribuerez et quelqu'un distribuera le texte à la fin du cours que je puisse le mettre au bureau. Bien, il nous reste en tout cas pour lire ce texte une question de vocabulaire à élucider. C'est précisément quel rapport y a-t-il entre le mot français de prier qu'on a un peu compris déjà. Ça signifie demander dans les conditions déjà indiquées, et le mot hébreu de tefila. Et cela, nous aurons le voir assez en détail à la lecture de ce texte, mais d'abord, malgré tout, une traduction est nécessaire. Le mot de tefila, je vous l'avais indiqué dans l'argument, là, c'est le substantif de la forme pronominale d'un verbe hébreu qui signifie juger. Palol. Palol. Signifie juger. Vous avez en hébreu moderne l'adjectif plili, qui veut dire juridique, ou susceptible d'avoir été jugé, passé en jugement. Et la forme pronominale, c'est le hit palel, qui a pour substantif tefila. Donc c'est un comportement qui signifie très exactement le jugement de soi par soi. Alors, quel rapport entre l'idée de jugement de soi par soi, et qu'est-ce que ça veut dire, comme comportement, et l'idée de prière? Je vous ai dit que prière, c'est le rite de la demande. Or, il y a 10 rites de la demande différents dans la tradition juive. Il y en a un seul qui s'appelle Tefila. Pour pas trop accumuler les notions, je ne parle pas du tout des autres maintenant. Enfin, en fin de séminaire, je vous citerai les autres rites de prière, qui ne sont pas des rites de sanctification, de confession, de proclamation de foi, etc. Et ce rite de Tefila, je vais vous le définir, ça nous fera mieux comprendre l'étymologie. C'est le rite d'une demande de quelque chose auquel j'aurai droit à certaines conditions, sinon je n'aurai pas le droit de le demander. Mais il faut un jugement pour qu'il soit avéré si j'y ai droit ou pas. La notion qui est en question là, c'est la notion de mérite. C'est-à-dire, je demande, mais est-ce que je mérite? Alors, pour qu'il s'avère si je mérite ou pas, il faut un jugement. Et ce jugement, c'est moi qui le provoque dans l'entreprise même de cette demande. Donc, il s'agit d'une prière de demande qui se base sur le mérite. Et j'ajoute tout de suite une autre clause, on va reprendre tout ça. Seule la communauté peut oser faire une telle prière qui se base sur le mérite. Et c'est pourquoi nous prions à l'échelle individuelle dans la prière de la communauté. Et on verra effectivement qu'il s'agit d'une entreprise périlleuse. Il y a donc tout un conditionnement qui sera imposé par la liturgie. Il y a d'autres prières qui sont des demandes qui ne se basent pas du tout sur le mérite éventuel. Je peux demander en grâce, comme une grâce. Par exemple, c'est le verbe qui est au début d'une des parachutes qu'on vient de lire, va être Hanan, la Techina, c'est de demander, mais de façon gratuite. Je n'ai même pas à dire, même si je ne mérite pas. C'est en rien relié à la notion de mérite. Je dirais même plus, surtout si je ne mérite pas. La Techina, qui demande une grâce, gratuite. Tandis que la Tefila, c'est vraiment une prière. On apprendra qu'est-ce qui nous vaut ce privilège d'en avoir prérogative, une prière où j'ai droit de demander, et pour cela il faut un jugement. Et voilà donc le lien. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un rite de demande d'une chose précaire, mais que je n'aurai que si je la mérite. Alors oui, l'accumulation de questions que l'on se pose à nous. Et si on est ainsi, pourquoi il faut que je demande? Mais en tout cas, l'initiative de la demande me revient, parce que la demande enveloppe, véhicule un jugement qui va être fait de moi-même. Je vais être confronté à ce que je devrais être. C'est ça le jugement. Mais c'est moi qui ai la prérogative de décider que ce jugement se fasse, parce que j'ai besoin de ce dont je vais demander. C'est quelque chose, dans tous les cas, que je n'aurai que si je le mérite. Mais tout ce que j'ai à mériter dans ce monde-ci, c'est dans le monde à venir que je l'aurai. Seulement voilà, j'en ai besoin maintenant. Alors on va analyser avec le Talmud qu'est-ce qui me donne le droit de demander maintenant, de l'usufruit maintenant, si j'ose dire, de quelque chose que je n'aurai si je le mérite, mais que dans le monde de la rétribution, pas dans ce monde-ci. Alors vous voyez, j'aggrave le caractère périlleux de l'entreprise. Je vais vous raconter une histoire dans le Talmud. Il y avait un rabbin qui était très pauvre. Et ça me permet de compléter quelque chose que j'ai oublié de terminer tout à l'heure, quand j'ai dit que les justes ont peur de prier, parce que l'entreprise consiste à demander à Dieu de changer sa volonté. Mais lui seul sait comment c'est bien pour le monde de fonctionner, quelles que soient nos apparences, les apparences pour nous. Et alors, il était tellement pauvre que ça nous dit qu'il n'avait pour se nourrir que d'une gousse d'ail de vendredi soir à vendredi soir. Bon, il y a aussi des secrets derrière, comment on peut se nourrir comme ça. Que sa femme, finalement, ne laissait pas vivre. Tu as tellement de mérite, demande, les autres ont, et toi pas, c'est pas juste, c'est pas normal. Un jour, finalement, il accède à la demande de sa femme, et il prie. Et alors, il prie, et la nuit, il a un rêve. Il se voit au paradis avec ses collègues. Tous ses collègues sont assis à une table, à quatre pieds. Et, attendez, j'ai anticipé. Il prie le lendemain matin. Et en se réveillant, il trouve dans sa chambre un pied de table en or. Alors, il est tellement inquiet du miracle qu'il demande à sa femme d'attendre. Et la deuxième nuit, il rêve qu'il se trouve au paradis avec ses collègues. Tous ses collègues sont à une table avec quatre pieds, et lui, une table à trois pieds. Alors, le lendemain matin, il reprit, il demande à Dieu de reprendre le pied. Et il voudrait pas, il voulait pas être dans l'éternité avec un pied en moins. Et alors, le Talmud dit avec beaucoup d'humour, je crois que c'est un des commentateurs, le deuxième miracle était plus fort que le premier. Que Dieu ait donné le pied de table en or, c'est pas grave, mais qu'il ait repris. Alors, vous voyez la leçon de cette histoire, est-ce que je sais ce qui est bien pour moi? Et alors, bon, ensuite, il a été récompensé autrement de sa piété, mais c'est autre chose. Et voilà donc à propos de quoi je vous citais cette histoire. Oui, à propos de quoi je vous citais ça, juste avant. Oui, la mémoire. Oui. Et c'est en tout cas la raison pour laquelle c'est moi qui dois prendre l'initiative de prier. Alors là, c'est relié à la notion du droit à prier. Après la destruction du temple, nous apprendrons que la prière va devenir un devoir. Alors il y a deux fonctions, deux comportements de la prière. Il faut qu'on étudie deux niveaux très distincts. Après, on verra les liens. Premièrement, la prière avait comme problème qu'est-ce qui me donne le droit de demander. Deuxièmement, la prière comme rite qui est un devoir religieux de faire la prière. C'est la tefila mitzvah, si vous voulez, la mitzvah de tefila. Le fait que nous ayons une obligation religieuse de prier Dieu. La avoda comme obligation. C'est tardif. Juste tant que le temple existait, la prière était un rite individuel qui n'avait aucune liturgie imposée. On était au temps de la prophétie. Et les Hébreux étaient capables de prier. Alors chacun priait quand il avait objet de prière, quand il avait à prier. Le rite, ce n'était pas la prière. Le rite, c'était les sacrifices du temple. Quand le temple a été détruit, la prière va être instituée comme rite et comme devoir de prier. C'est un problème pas simple. Voilà. Dans trois, quatre cours, on va le rencontrer. Mais vous voyez, il y a deux niveaux donc, de cette notion de prière. C'est un jugement de soi par soi. Il y a le niveau individuel du droit à la prière. Et alors là, je voudrais être clair, il n'y a aucune règle. Il n'y a pas de règle de temps, il n'y a pas de règle de forme, n'importe qui prie, il n'y a pas de règle de langue. Chacun qui est dans cette situation d'avoir à demander, parce qu'il est dans le cas d'avoir à demander, dans les règles prévues qu'on va étudier, peut prier dans la langue qu'il comprend, pourvu qu'il la comprenne. Mais ça, c'est la prière individuelle qui est le droit de prier. Je l'appellerai tfila, tfila. Et ce droit de prier nous a été acquis par les patriarches. Ensuite, à partir de la destruction du temple, et on verra que c'était pas évident, les rabbins établissent qu'on va remplacer le culte de sacrifice par un culte de la tfila qui vient à la place des sacrifices, et qui devient une mitzvah, un devoir. J'ai employé un mot en français qui est faux. La prière ne remplace pas les sacrifices. C'est un tout autre rite. Mais la prière vient en place de, comme culte. Le culte de la loi de Moïse, ce n'était pas la prière, c'était les sacrifices. Lorsque le temple a été détruit, on ne peut plus offrir les sacrifices, pas parce qu'il y a eu évolution des mœurs religieuses. Ça, c'est les historiens qui disent ça. En général, les historiens ne savent pas de quoi ils parlent. Ils font l'histoire. Jamais de la Bible. Et c'est à moi que vous parlez. J'ai lu Maïmonide. Vous avez peut-être lu des choses sur Maïmonide. Faites bien attention. Maïmonide était un rabbin. Et il y a beaucoup d'historiens qui montrent Maïmonide comme s'il était philosophe. Qu'il soit aussi capable de parler des philosophes, c'est une autre histoire. Je retiendrai la question que vous avez posée. Pas du tout ça, pas du tout ça. Et on reprendra le problème à Maïmonide, si vous voulez, quand c'est un problème d'érudition un peu précise, mais simplement réfléchissez, est-ce qu'un rabbin, quand je dis rabbin, je veux dire un rabbin de la tradition, pas monsieur le rabbin, mais un rabbin, comme Maïmonide, va dire une hérésie pareille, hein? Réfléchissez bien à ça. Il y a des choses invraisemblables qu'on avale comme si... Il faut oublier que Maïmonide, c'est un rabbin. C'est le rabbin talmudiste de son temps, donc personne n'a jamais égalé. Il a tout le Talmud dans la tête. Et c'est lui qui a fait la synthèse dans le code du Mishneh Torah de tout le Talmud. Okay? Et vous voulez qu'il dise une énormité pareille. De laquelle énormité? Que c'est par révolution des mœurs qu'on a remplacé le sacrifice par la prière. Je vais vous donner un exemple. Abraham offrait des sacrifices. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'Abraham était primitif? Était primitif? Ben, c'est ça que ça voudrait dire. Nos ancêtres primitifs avaient un rite primitif, les sacrifices. Nous, les modernes, on prie. Tout ça, c'est suspect, c'est manière de présenter l'évolution de l'histoire. C'est parce que le temple a été détruit qu'on ne peut plus offrir des sacrifices. Mais ce problème, c'est la raison essentielle. Ce problème, qu'est-ce que c'est que les sacrifices? Déjà, les modernes sont démunis de compréhension, on ne comprend pas. En quoi un sacrifice, c'est le rite. Bien? Donc ça aussi, il faudra étudier, noter ça qu'on étudie. C'est quand même lié. Bien? Et seulement, on est pris dans des clichés des historiens des religions. Quand j'ai dit historien, je pensais surtout aux historiens des religions, mais ça va un peu pour les historiens. Vous savez, les historiens refont l'histoire, mais la tradition a une mémoire, et c'est très différent. Et c'est très rare quand un historien tient compte de la mémoire des gens dont il fait l'histoire. Et vous comprenez ce que je veux dire, hein? Bon, et alors, qu'est-ce que je disais juste avant, pas des historiens, hein? Oui, le mot est faux. Ça vient à la place comme rite, comme culte. La prière ne remplace pas les sacrifices, ça n'a rien à voir. Et l'objet du sacrifice, c'est un comportement qui a des dimensions différentes, mais dont l'essentiel est l'expiation des fautes. Mais dans tout sacrifice, il y a aussi cet aspect-là. Alors c'est le rite d'adoration au temps où il y avait la prophétie. Bon. Un moderne, encore une fois, comprend très peu. En quoi c'est ça, le rite? On est habitué que le rite religieux, c'est d'aller à la synagogue faire la prière. On s'est habitué à cela. Okay. Au temps où il y avait le temple, il y avait aussi des synagogues. Mais le culte de la loi de Moïse se faisait au temple de Jérusalem au niveau des sacrifices. Non, en fait, c'est que puisque le sacrifice n'est pas réalisé, et il n'est pas réalisé parce qu'il n'y a pas le temple, on n'aurait plus avoir le droit de prier. Pour pouvoir prier dans le premier sens, il fallait instituer un culte qui prenne place des sacrifices parce que le sacrifice ne peut pas être offert. Pourquoi? Parce que le sacrifice, c'est la rédemption d'une faute qui nous avait tombé de niveau de mérite. Or, la prière, c'est de demander plus que le niveau où on se trouve. Donc il faut d'abord réinstaurer le niveau duquel on est tombé pour ensuite demander. Est-ce que c'est clair? Par conséquent, au temps où les sacrifices n'étaient pas faits, la prière était impossible. Vous voyez que le lien est d'une toute autre nature. Okay. Voilà un autre exemple. Les deux rites principaux des rites oraux, le Kriyat Shema et la Tfila, tant que le temple existait, c'était deux rites complètement disjoints, différents, deux mises différentes. Dans l'un, c'est la proclamation de l'unité de Dieu, ça se faisait le soir et le matin. Dans l'autre, c'est la prière, la demande, ça se faisait le matin, l'après-midi et le soir. À partir de la destruction du temple, on les a joints dans le même office, du matin et du soir. Pourquoi? Parce que tant que le temple existait, il y avait possibilité de savoir devant qui on prie. Mais à partir du moment où le temple a été détruit, le point de référence d'unité a disparu, et alors il fallait joindre les deux rites, et l'intention était très simple. À qui on adresse la prière? À celui qui nous a fait sortir d'Égypte. Vous voyez, ce sont des choses que ceux qui n'ont pas étudié n'ont aucune idée. Okay? Et donc, vous voyez, c'est accessible comme connaissance, mais il faut en voir les références précises. On étudiera un texte de Gemara qui montre ça. Ça s'appelle le fait de joindre l'allusion à la délivrance, la Geoula, de la sortie d'Égypte, à la tfila, à la prière de demande. C'est-à-dire, tant que le temple existait, encore une fois, la prière individuelle du droit, la prière n'a aucune règle. C'est un droit. Tandis que, deuxièmement, il y a une deuxième forme de prière, après la destruction du temple, la tfila avoda, la tfila mitzvah, c'est le rite de la prière de la communauté. Alors, la première prière reste la prérogative de chacun. Elle continue à être sans aucune règle. La deuxième, celle dont on va s'occuper, celle-là a des règles très précises, en particulier C'est à quoi j'ai fait allusion, mais je voulais mettre en évidence cette notion de jugement, jugement de soi par soi. C'est un comportement spirituel où je m'offre au jugement et où je réalise ce jugement de moi par moi. Ça explique énormément de choses, en particulier, je le dirais déjà aujourd'hui, on est souvent gêné que c'est la même prière qu'on fait chaque jour et trois fois par jour, et que tout le monde fait. Eh bien, vous allez comprendre très vite qu'en réalité, c'est pas la même, c'est jamais la même. Dans ce pronominal, moi qui juge moi, il y a un moi qui est toujours le même. C'est le moi qui juge. Israël que je devrais être. Mais celui qui est jugé, il n'est jamais le même. Ni pour chacun, et ni pour chacun, le matin, l'après-midi ou le soir. C'est clair ce que j'ai dit là. Il y a un des deux facteurs qui change perpétuellement. La prière n'est jamais la même. Bien que le texte soit le même. Parce que le texte de référence, ce par quoi je suis jugé, c'est le même. Mais le fait de prière n'est jamais le même, parce que moi, je suis jamais le même. Vous voyez un exemple de ce problème. Alors, on retiendra ce problème, mais je voulais vous donner un autre exemple. Le Talmud a aboli la peine de mort il y a très très longtemps. Et très souvent, on cite cela, vous savez cela, que le Talmud a aboli la peine de mort, la formule est que un tribunal, la Sanhédrin, qui condamne à mort une fois, plus d'une fois en 70 ans, peut être appelé tribunal d'assassin. Vous avez entendu ces formules. Et on croit que c'est l'évolution des mœurs qui fait qu'il faut abroger la peine de mort. Mais c'est tout le contraire. C'est parce qu'on n'est plus au niveau moral, on n'est plus capable d'un niveau où la peine serait la peine de mort qu'il faut l'annuler. C'est l'inverse, c'est la dégradation des mœurs qui fait qu'on ne peut plus appliquer les peines qu'on devrait appliquer, parce qu'on les appliquerait sans arrêt. Je vous donne un exemple en pédagogie. Tous les pédagogues savent qu'un enfant doit recevoir une raclée dans sa vie. Okay. Il la cherche, et tant qu'il ne l'a pas, il n'est pas heureux. Les jeunes parents connaissent ça. Okay. Mais s'il y a des parents qui donnent une raclée à leur gosse tous les jours, c'est les parents qu'il faut soigner. C'est clair ? Oui. C'est-à-dire, à partir du moment où on applique de façon aveugle une règle qui ne peut s'appliquer qu'exceptionnellement dans des cas très exceptionnels à un certain niveau, alors c'est qu'on n'est plus à ce niveau-là. C'est pas qu'il faut changer la loi, il faut la formuler pour le niveau où on est. Je sais pas si je suis assez clair, hein ? Ouais, c'est la même chose. Alors, l'historien des religions a tendance à dire que l'état de nudis était très moderne en leur temps, ils avaient aboli la peine de mort. Non, c'est tout à fait autre chose. Ils ont fait un diagnostic qui montrait qu'on n'est plus au niveau de cette prescription de la loi de Moïse. Alors, il faut la suspendre. Pas l'abroger, mais la suspendre. Parce que c'est effectivement être un assassin que distribuer la peine de mort tous les jours. Tandis que si une fois c'est nécessaire, alors ça c'est la peine de mort. Mais on n'est plus à ce niveau-là. Vous avez compris le problème. Alors, faites bien attention à cette mentalité. Mais je me rappelle, chaque fois que j'avais étudié cette question, mon maître me disait toujours ce que je vous ai dit. Pense à Abraham. Abraham offrait des sacrifices et priait. C'est le premier d'ailleurs qui va prier dans la liturgie biblique. Alors ça veut dire qu'Abraham était primitif et que ses descendants ont évolué. C'est tout le contraire. Nous sommes diminués par rapport au premier. Le progrès qu'il y a dans l'histoire est d'une autre nature. C'est clair ce que je dis là. Donc. Et alors, quand on étudiera ce problème, je m'arrêterai là pour aujourd'hui, on comprendra, peut-être qu'on commencera par là demain matin avant de commencer. Eh bien, on verra que pourquoi le rite corollaire à la loi de Moïse, c'est le sacrifice, et pourquoi le sacrifice porté sur un repas, sur quelque chose qu'on mange. D'ailleurs, un sacrifice complet, c'était un vrai repas avec des parfums. Un repas sans parfum, ça, les gens civilisés savent, c'est pas un repas. C'est pour ça qu'on fait semblant, on met des fleurs sur la table, la plupart du temps, elles sont en plastique. Vous voyez l'évolution des mœurs. Bon, alors on se voit donc demain pour la suite.